voulons encore adorer, juste élever un regard d'adoration vers celui qui est notre roi aujourd'hui. Il a été crucifié il y a environ 2000 ans. Il a payé le prix fort pour notre rachat, mais il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est mort, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, il vit. Aujourd'hui, il intercède pour chacun d'entre nous auprès du Père. Quelle assurance de le savoir. Quelle bénédiction et quelle responsabilité, quel privilège de le servir aujourd'hui. Notre roi, il n'a jamais changé. Et aujourd'hui, je veux rendre gloire à la puissance de son nom et à sa grande fidélité. Et je voudrais commencer par une parole prophétique que le Seigneur m'a donnée pour vous, peuple de Dieu ici présent. En ces temps difficiles de la fin, le Seigneur veut nous encourager. Les temps sont difficiles pour chacun d'entre nous. Nous avons des épreuves, nous avons des combats, mais nous avons quelqu'un qui intercède auprès du Père pour nous. Nous ne sommes pas orphelins, nous avons un Père dans le ciel. Et son Fils qui intercède pour nous, jour et nuit. Quel privilège! Alors, peuple de Dieu, dit le Seigneur, en ces temps difficiles de la fin, je voudrais, mon peuple, te rassurer quant à ma très grande fidélité à ton égard et te dire que plus les temps seront difficiles, plus je me tiendrai à tes côtés pour te soutenir, pour t'encourager, pour te fortifier, mais aussi pour te protéger dans les moments dangereux que tu vas traverser. Sache que tu es environné de toutes parts de ma très haute protection, de ma puissante protection, et que rien ne pourra jamais t'atteindre sans passer d'abord par moi, dit le Seigneur. Alors qu'avons-nous à craindre, peuple de Dieu, qu'avons-nous à craindre? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne regarde pas, peuple de Dieu, aux circonstances qui, elles, sont passagères, mais regarde à ton bouclier, à ta haute retraite. Ma fidélité t'environne de toutes parts. Elle t'a conduit jusqu'ici. Et je n'ai jamais renoncé à ma fidélité, dit le Seigneur. Alléluia. Ô Seigneur, nous voulons te louer parce que tu n'as jamais changé. Tu es fidèle au travers des siècles. Tu as porté ton peuple au travers des siècles et tu nous porteras jusque dans le port. Ô Seigneur, merci de nous rassurer ce matin. Merci d'avance pour ta très haute protection. Et il n'y a pas très longtemps, le Seigneur m'avait donné cette vision où je voyais le peuple de Dieu avec l'agneau de Dieu qui marchait devant et qui conduisait le peuple de Dieu. C'était les chrétiens de la terre. Et devant, juste derrière l'agneau, il y avait donc le peuple de Dieu rassemblé qui suivait l'agneau, et c'était l'agneau qui les éclairait, c'était l'agneau qui le conduisait. Et par devant l'agneau, le peuple de Dieu, les Lévites, les adorateurs qui ouvraient la marche, ne craignant pas de devenir des adorateurs et de prendre du temps devant la face de Dieu pour adorer le Seigneur, par derrière l'armée de l'Éternel. Et ça faisait comme une enceinte qui entourait le peuple de Dieu par devant les Lévites et par derrière l'armée de l'Éternel. Et ils se rejoignaient sur les côtés et nous étions complètement environnés de la puissante protection du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur. C'est une réalité, peuple de Dieu. Puissions-nous le croire et marcher dans cette victoire qui est la nôtre afin de ne pas attrister le Seigneur par notre incrédulité. Et là, le Seigneur m'a donné aussi de vous lire ce passage pour introduire deux, trois témoignages de la puissance de Dieu que je vais vous raconter. Dans le psaume 77, 77, verset 12, où il est dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. » Et ensuite, 78, « Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Notre confiance est liée, notre confiance dans le Seigneur est liée avec notre fidélité envers le Seigneur. Puissions-nous le réaliser. Si nous manquons de confiance dans le Seigneur, nous manquons aussi de fidélité à son égard. Alléluia. Et là, je vais lire encore ce passage juste. Son bras est puissant. Ton bras est puissant. Ta droite élevée, ta main forte, car tu es grand, Seigneur, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies. Nous avons besoin de connaître la puissance de Dieu, mes chers amis, de la connaître véritablement. Et quand nous en avons conscience, alors nous écouterons mieux et davantage aussi quand Dieu nous parle au travers de sa parole. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur me fait témoigner avant la prédication de la parole de Dieu, partout où nous allons, afin que nos oreilles soient plus attentives du Dieu vivant que nous servons, qui n'a pas perdu sa puissance. Alors, quand vous entendrez des témoignages comme je vais vous dire, votre confiance en lui va grandir, va se fortifier, et vous écouterez d'autant mieux la parole de Dieu qui sera prêchée. Je vais rendre témoignage à la gloire du Seigneur d'un cas absolument désespéré que nous avons vécu en Afrique. Nous faisions un séminaire pour les serviteurs de Dieu. Et à cette réunion-là, il y avait à peu près 500 pasteurs. Et à cette réunion-là, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance, disant « Il y a un serviteur ici qui a laissé sa femme très malade à la maison. Je vais la guérir. » Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'effectivement, cette dame était très malade, mais plus que malade. Elle était à l'agonie de la mort, elle agonisait depuis 10 jours. Renvoyée par l'hôpital de Ouagadougou, pour vous dire le pays, où les médecins avaient renvoyé cette femme à la maison pour mourir. Ils avaient dit, pas la peine d'ouvrir, ses intestins sont pourris. Laissez-la aller mourir. Elle agonisait. Elle a vu les anges de la mort venir depuis 10 jours. Elle était presque aveugle, absolument une loque sur son lit de mort. Elle était en train de s'en aller. Et le Seigneur me donne cette parole au séminaire, à des kilomètres de là. Et je le dis de la part du Seigneur. Je dis, le Seigneur est en train de toucher une femme, l'épouse d'un serviteur ici, qui est très malade. Et au même instant, je l'ai su après, au même instant, cette femme, sur son lit de mort, parmi les visions d'anges de la mort qui venaient, c'était quand même la femme d'un pasteur, très engagé, elle a entendu la voix du Seigneur lui dire, « Il y a une de mes servantes qui est en train de prier pour toi, je vais te guérir. » À l'instant même, à la seconde même, ou la minute, disons. Et la puissance de Dieu est venue sur elle comme un faisceau lumineux, a-t-elle expliqué après, et a traversé son organisme de la tête aux pieds. Elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus manger, elle ne pouvait plus rien, elle était à l'agonie, en train de s'en aller. Et la puissance de Dieu a traversé son organisme. Elle a sauté de son lit, elle a couru dehors, elle a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La puissance de Dieu l'a complètement guérie. 3 jours après, elle venait à ma réunion de dames parce que le Seigneur m'a confié ce ministère aussi, d'enseigner les femmes et les femmes de serviteurs de Dieu. Elle est venue à cette réunion. Je ne le savais pas. Je ne connaissais pas du tout son histoire. Et parmi un millier de femmes environ qu'il y avait là, après mon message, je demande aux personnes touchées de venir rendre témoignage, après mes paroles de connaissance aussi. Je demande aux personnes de venir témoigner. Et elles viennent, les unes pour une chose, les autres une autre. Et je vois cette dame en première ligne. Je la vois rayonner de la gloire de Dieu. Je ne savais pas encore, toujours pas, qui c'était. Et j'ai dit, vous, madame, venez nous dire, la gloire de Dieu est sur vous, vous avez quelque chose à partager avec nous. Elle vient, c'était elle. C'était elle et elle a dit. Elle a dit, il y a 3 jours, vous avez dit cette parole là-bas, au séminaire, c'était moi et me voilà. Alors, je ne vous dis pas les applaudissements, je ne vous dis pas la joie dans l'auditoire. Cette femme était presque une résurrection. Elle était complètement métamorphosée, encore squelettique, encore un peu jaune, mais elle était guérie. Et d'ailleurs, des semaines, des mois après, les gens de son village, ou de sa ville, ou de son quartier, disaient, c'est pas possible, c'est pas elle, elle est morte cette femme. Elle est morte, c'est son ombre, c'est son fantôme. Tellement c'était irréel. Et son frère qui est venu, qui est rentré des États-Unis, un peu plus tôt pour les obsèques que pour autre chose, l'a retrouvée et il a su ce qui s'était passé. Et c'est merveilleux de savoir que cette femme a été complètement, complètement guérie. Il n'y a plus de nid d'intestin malade alors qu'ils étaient pourris. Et maintenant, elle fait des réunions de prière dans sa maison. Elle-même, elle apporte ce qu'elle a reçu. Alléluia. Touchée par la puissance de Dieu. Et toi aussi, tu peux être touchée par la puissance de Dieu. Au même titre. Attends-toi à l'attouchement du Seigneur. Aujourd'hui, attends-toi, approche-toi de lui. Il est là, selon sa promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et vous êtes le peuple de Dieu. Et il est là. Alléluia, Seigneur. Comme autrefois, quand il passait dans les villages de la Galilée, et qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, d'une façon ou d'une autre. Il est encore et toujours le même. Moi aussi, je suis le fruit de sa puissance, parce que je devais mourir à l'âge de 27 ans. Et j'ai reçu cette même puissance, moi aussi. J'étais mourante, et le Seigneur, d'hépatite virale et d'une crise de malaria aiguë. Et je n'avais plus mangé depuis 10 jours, plus mangé depuis 10 jours, et je n'avais plus consommé d'eau non plus depuis 3 jours en Afrique. Alors je me déshydratais, j'étais mourante, je m'en allais, les mouches me couvraient déjà. Donc j'étais moi aussi dans cet état-là. Donc je sais de quoi je parle. Et je suis une miraculée, et le Seigneur m'a donné un sursis pour lequel je le remercie et pour lequel je suis responsable de la vie que je mène aujourd'hui. Et, mais je voudrais encore ajouter, il y a quelques semaines, pas très longtemps, nous avions dans notre équipe, nous avons toujours dans notre équipe, un couple d'un certain âge. Lui, il a 73 ans, elle en a à peu près 68. Et lui avait un grave problème cardiaque. Et ils viennent nous aider à leur âge, ils viennent encore nous aider dans les travaux, divers travaux de l'œuvre Compassion que nous représentons. Et donc là, il était handicapé, il ne pouvait plus venir. Sa femme aussi était atteinte du cancer du sein. Et lui, un grave problème cardiaque. Et il y a bientôt une année, ça fait au mois de mai l'année dernière, nous avions une convention à Valence, à laquelle, parmi d'autres paroles de connaissance, j'ai dit, le Seigneur guérit quelqu'un qui a un problème cardiaque lié avec son sang. Manque de plaquettes et tout ça. Et sans trop épais, je ne sais plus ce que j'ai dit exactement. Toujours est-il que c'était notre notre frère. Et on n'a pas su exactement tout de suite ce qui s'est passé, mais néanmoins, il était allé voir la cardiologue et la cardiologue lui a tout de suite fait une piqûre en le voyant arriver pour fluidifier son sang et pour le mettre hors danger parce qu'il risquait d'avoir à tout moment une embolie cérébrale ou cardiaque. À tout moment, à tout instant. Donc en danger de mort. Et ce qui s'est passé, c'est que cette parole-là était pour lui. Il devait être hospitalisé début du mois dernier pour pontage coronarien, je crois, différents problèmes de cardiologie, et il devait aussi faire un électrochoc pour remettre la valve du cœur en place, etc. Et il est allé voir la cardiologue. La cardiologue a dit « Il s'est passé quelque chose, monsieur Nieto. Votre cœur est parfait. Votre sang est parfait. Il n'y a plus de problème. Vous pouvez venir me revoir dans un an pour contrôle. » Et il devait être hospitalisé. Et il est guéri et il part la semaine prochaine aux États-Unis. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Avec sa femme qui, elle, à cette même réunion de Valence l'année dernière, où il y avait une autre parole de connaissance disant que ce Seigneur guérissait une femme qui avait un cancer du sein. Elle aussi, elle avait eu le cancer du sein, chimiothérapie pendant un an, et tous les traitements. Et chaque fois qu'elle allait voir le cancérologue était très évasif, très vague, et il était loin d'être rassurant. Alors elle était dans une crainte, une angoisse terrible, comme on peut le comprendre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été touchée par le Seigneur aussi, par cette parole-là. Et qu'il y a deux, trois mois, elle est allée voir, se faire faire un examen. Et le cancérologue a déclaré guérie. Complètement guérie, plus de traces de cancer. C'est elle qui part aussi aux États-Unis dans une semaine, avec son mari. Alléluia! En voyage de noces peut-être. Alléluia! Loué sois-tu. Une nouvelle vie qui recommence pour eux. Le Seigneur n'a pas de limite, ni d'âge, ni de circonstance. Quand c'est son heure, il faut prendre ce qu'il nous donne. Comme le paralytique au bord de la piscine de Bethesda. Approchons-nous quand il passe. Ne le laissons pas passer. La circonstance peut ne pas se reproduire. Il nous demande de faire agir notre foi. Dieu ne parle pas pour rien dire. Alors prenons ce qu'il nous donne. Gloire à ton nom. Alléluia. Et juste encore un témoignage. C'était au Canada, il y a quelques années, où nous étions dans une église comme celle-ci. Et à la fin de la réunion, parmi les paroles de connaissance, je dis que le Seigneur touche quelqu'un qui a une grave décalcification des os. Et que le Seigneur est en train de guérir cette personne. À la fin de la réunion, après la réunion, un monsieur d'une quarantaine d'années vient me voir et me dit, d'après les autres descriptifs que j'avais donnés, ça c'est pour ma mère. Et je dis, bon, ben que le Seigneur soit béni. Sa mère était à la maison, 74 ans, en train de mourir du cancer des os. Le cancer le plus douloureux qui soit. Et quand notre ami, son fils, qui a pris cette parole pour sa mère qui était à la maison, il est rentré, sa mère qui ne pouvait plus bouger, qui ne pouvait plus marcher, elle attendait la mort, elle aussi. Elle s'est levée, elle était debout. Il l'a trouvée debout après la réunion, à la maison. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, parce que tes œuvres sont parfaites. Tu es le Tout-Puissant, tu n'as jamais changé. Et c'est à toi que nous voulons rendre gloire pour tes hauts faits, tes prodiges. Et nous ne voulons pas être ingrats, nous ne voulons pas te limiter, nous voulons rappeler tes œuvres, afin que la génération future ne soit pas incrédule, mais qu'elle croie. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Nous l'avons vu tant et tant de fois. J'aurai des quantités de témoignages encore à vous dire, mais maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Et ensuite, je donnerai encore ce que le Seigneur a mis sur mon cœur.
Nous avons revu cette dame une année après, donc au Canada. C'était une petite dame, mais complètement guérie. C'était vraiment magnifique. On a l'impression que c'était une personne qui n'avait jamais été malade. Nous pouvons vraiment dire que le Seigneur est bon et plein de compassion. Et jamais nous ne nous lassons de ce que Dieu peut faire. Laissez-moi vous dire, nous avons un Seigneur merveilleux. Que vous y croyez ou pas, le Seigneur est merveilleux. Nous ne devons jamais juger le Seigneur d'après nos expériences personnelles, négatives surtout. Ah oui, mais moi, vous vous rendez compte? Mais moi, j'ai pas vécu ça. Moi, c'est pire. Mais le Seigneur, lui, est le même. Il peut y avoir des nuages, mais le soleil brille toujours. Son amour est toujours là, sa compassion est toujours là. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Ça fait 40 ans que nous sommes dans ce ministère de guérison. Il y a beaucoup eu d'échecs aussi. Mais il y a une chose qu'il fallait qu'on ne doute jamais, de sa compassion. Si vous doutez, si je commence à douter de sa compassion, je n'ai plus rien à vous dire, mes amis. Je n'ai plus qu'à me taire et rentrer à la maison. On n'a plus rien à dire. Si nous croyons qu'il est toujours compatissant, quelles que soient les circonstances difficiles que vous avez pu avoir, ne doutez jamais de son amour. Il me vient à l'esprit le témoignage d'un prédicateur américain. C'était à Valence que ça se passait. J'étais tout jeune converti. Je ne me souviens pas du tout de son message. Gilbert s'est souvenu de mon message de Samson. Moi, j'avais complètement oublié ça, mais heureusement que je n'ai pas pensé à prêcher sur Samson ce matin. Mais voilà, il s'en est rappelé. Mais moi, rien du tout. Mais j'ai retenu une chose qui m'est toujours restée et qui nous a aussi beaucoup aidés dans le ministère. Ce n'est pas parce qu'on prie pour les malades qu'on a des résultats, que nous-mêmes, nous n'avons pas d'épreuves et de combats. Détrompez-vous si vous croyez cela. Et ce prédicateur, à un moment donné, lui aussi, il racontait qu'il voyageait le monde entier, qu'il avait beaucoup de résultats dans la guérison, les miracles. Les sourds qui étaient guéris. Et d'un seul coup, il dit, « Mais j'ai à la maison mon propre fils. Il est sourd. J'ai prié pour lui. Comme je prie pour les autres, pas de résultat. J'ai encore prié, pas de résultat. » Mais il ne s'est pas arrêté là. Mais, a-t-il dit, je sais une chose, que Dieu ne se trompe jamais. J'ai retenu cette parole, je vous le dis. Et cela m'a beaucoup aidé. Je sais une chose, que Dieu ne se trompe pas. Ne jugeons jamais le Seigneur d'après nos expériences négatives. Il est au-dessus de tout. Ses pensées sont au-dessus des nôtres. Ses voix sont au-dessus des nôtres. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une boîte. Il est au-dessus de tout. Grande est sa fidélité, mais grande est sa compassion aussi. Doute pas. Crois-le. Et ta foi sera renouvelée. Nous avons un Sauveur merveilleux. Et plus je prêche le Seigneur, plus je suis content, heureux. Il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un qui prêche la parole avec un message si merveilleux que nous avons, avec un visage triste, n'est-ce pas vrai? Avec le message que nous avons et prêcher de telle sorte que les gens s'endorment, c'est pas possible. On ne peut pas, avec le message que nous avons, ce n'est pas permis. Il est réellement ressuscité. Alléluia. Et il vit et il agit. Il peut agir encore maintenant, même pendant le message. Il n'y a pas de limite. C'est nous qui mettons des limites dans nos pensées, nos conceptions, à cause d'échecs. Nous devons enlever ces limites. Dieu nous aime, Dieu veut nous bénir, nous encourager. Que son nom soit béni. Le temps passe, je voudrais je ne serai pas trop long dans mon message. Mais je ne vais pas parler de Samson, mais je vais vous parler d'un autre homme de l'Ancien Testament, d'Élisée. Élisée, et tout spécialement en rapport avec le manteau, ce fameux manteau d'Élie. Hein, on entend beaucoup de choses sur le manteau d'Élie. Je me souviens, quand j'étais jeune converti, on pensait au manteau en disant « Ça y est, c'est la puissance, il nous faut ce manteau, sans cette puissance, ça ne va pas. » C'était vraiment le symbole de la puissance, un poids, c'est tout. Et on en restait là. Quel dommage. Il y a beaucoup plus que cela dans le manteau d'Élie que Élisée a reçu. Le récit se trouve dans 2 Rois. On peut lire rapidement 2 Rois, chapitre 2. Nous allons voir un peu comment les choses se sont passées et je vais vous donner au travers de ce récit 3 leçons importantes concernant le manteau d'Élie, qui concerne chaque chrétien. 3 leçons importantes. On peut dire mille et une choses, mais ce n'est pas vrai. Mais 3 leçons pour ce matin, pour vous et pour moi. 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel m'envoie à Jéricho ?» Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Fils des prophètes qui étaient à Jéricho, s'approchèrent d'Élie et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de toi, de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élie, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau et le roula, le frappa et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Là encore, on a dit beaucoup de choses sur ces doubles portions. Les choses sont beaucoup plus simples que vous le pensez. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu ne me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il déchira en deux, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau d'Élie comme Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Amen. Il y a tant de choses à dire. Mais quelques pensées importantes. Ce matin, quand je lisais ça, d'un seul coup, je vois ici, il est dit, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Moi, j'ai toujours pensé que Élie était venu et avait appelé Élisée. Il dit, viens, voilà, mon manteau, je vais te le mettre sur toi. C'est trop facile, ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas ce qu'il a fait. Ce manteau n'était pas là pour être quelqu'un de bien et pour dire, voyez-vous maintenant, c'est moi qui ai le manteau d'Élie. Ouh, il est un peu trop grand pour toi, ou un peu trop petit.
C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Le manteau était à terre. Il fallait que Élisée se baisse. Ah, l'humilité, ça commence là déjà, son ministère. Il fallait qu'il se baisse. L'humilité. Et on voit par là cette humilité profonde d'Élisée. Et c'est à partir de ce moment-là que quelque chose s'est passé. Celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Ça, c'est valable pour tout le monde. Pour les prédicateurs comme pour les chrétiens. Pour tous. Même pour les gens du monde. Dieu veille aussi là-dessus. Quand quelqu'un dépasse un peu les limites, tôt ou tard, le jugement de Dieu vient. On ne joue pas avec ces choses. Élisée, il avait déjà travaillé environ 10 années avec Élie. 10 ans avant, dans Roi 19, on ne pourra pas s'arrêter. Élisée passait, Élie passait par là, il lui a jeté son manteau dessus. Il lui a dit, rappelle-toi ce que je t'ai fait. Et puis, donc, il a fait les sacrifices donc, de ses animaux. Quelques... Et puis après, il l'a suivi. Et pendant 10 ans, il a vu Élie travailler. Le contexte. Il est toujours bon aussi de voir un peu le contexte. Du temps d'Élie et du temps d'Élisée, c'était un contexte d'idolâtrie. Vous vous souvenez avec Élie, les 450 prophètes de Baal, avec les 400 d'Astarté, c'était des divinités, les divinités de la fertilité et de la sexualité. Il y avait des choses dégradantes et immorales qui se passaient dans ces temples et Israël pratiquait ces choses. Il y avait des prostituées sacrées dans le temple. Dites, mais est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est pourquoi nous voyons Élie avec une telle ardeur, ferveur, tranchant. Le mal était grand. Israël ne savait plus qui était son Dieu. Il a dû jeter un défi. Qui est Dieu? Est-ce que ce sont vos prophètes de malheur? Ou le Dieu d'Israël? Je ne vais pas m'arrêter là maintenant. Et nous savons ce qui s'est passé. Élisée a vu tout cela. Maintenant, c'est son tour. Et il se demande comment il va faire. Élie avait un ministère. Lui, c'est un autre ministère. Les ministères se complètent. C'est ça qui est merveilleux. Un ministère ne fait jamais tout. Si quelqu'un pense faire tout, il s'illusionne. On a des ministères complémentaires. C'est cela qui est merveilleux dans le corps de Christ, n'est-ce pas vrai? Et nous voyons que l'école d'Élisée a duré longtemps, pendant 10 ans. Et son ministère a duré 50 ans, d'après les commentateurs bibliques. 50 ans! Imaginez, quand Dieu veut donner une tâche qui dure longtemps, alors la préparation est sérieuse. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un longtemps si cette personne n'est pas passée par certains chemins, par certaines fournaises. C'est impossible. Voilà pourquoi venons-en tout de suite à ces 3 leçons importantes qu'Élisée a dû apprendre. Chapitre 2, verset 2, vous avez remarqué, à 3 reprises, Élisée lui dit, Élie dit à Élisée, reste ici. Vous vous rendez compte, jusqu'à présent, il était avec lui, puis il voulait aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est Élie qui le décourage. Mais c'est le contraire du bon sens. Mais pourquoi tu me dis de rester ici? Ça fait 10 ans que je te sers. Mais c'est pas pour m'arrêter là. Mais comment tu parles? Mais c'est inadmissible ce que tu fais. Le Seigneur m'envoie là-bas. Il m'envoie à Gilgal, à Jéricho, à Bethel. Et vous l'avez remarqué, à 3 reprises. On l'a lu, hein. À 3 reprises, reste ici. À 3 reprises, reste ici. Le Seigneur voulait lui apprendre une leçon. Par la bouche d'Élie. C'est la première signification du manteau. Le manteau d'Élie est, signifiait, c'était le manteau de la détermination à triompher de l'adversité et des épreuves. Ça, c'est le premier sens du manteau d'Élie, la détermination, soulignez bien ce mot, déterminée, décidée. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, qui sont décidés, ils ont pris la décision de ne rien décider. Ça existe, ça. Et vous savez qu'ils sont entêtés dans ce domaine-là. Vous ne pouvez pas les en déposséder. Déterminés à poursuivre le chemin, quelle que soit l'épreuve, les tribulations. Élie voulait savoir s'il était vraiment décidé à aller jusqu'au bout. C'était une épreuve. Parfois, les choses que le Seigneur fait dans notre vie semblent contraires au bon sens même. Mais Dieu ne sait très bien ce qu'il fait. Il est en train de nous tester, de vous tester. C'est là une leçon que tout chrétien doit apprendre. Il n'y a rien qui révèle autant le caractère de quelqu'un que lorsqu'il passe par l'épreuve et par la tribulation. C'est à ce moment-là qu'on voit qui vous êtes réellement. Il ne faut pas seulement être, comme je le dis souvent, un chrétien alléluia. Moi, je suis un chrétien alléluia. Et comme on a bien loué le Seigneur ce matin, je vois qu'on est tous des chrétiens alléluia. C'est bien, il faut l'être, surtout, surtout, surtout. Mais il faut être aussi un chrétien amen. Ça, c'est autre chose. Amen veut dire, vous le savez comme moi, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Alléluia, tu es merveilleux. Mais amen quand les choses ne sont pas merveilleuses. Amen, Seigneur. Je ne comprends rien, mais amen quand même. Je sais que Dieu ne se trompe pas comme ce prédicateur. Je le sais, Seigneur. Alléluia, mais amen. Quel que soit le chemin, les difficultés, Seigneur, je veux te suivre. Et vous savez, une jambe, alléluia, l'autre, c'est amen. Si vous marchez qu'une seule jambe, vous n'irez pas loin. Si vous n'êtes qu'un chrétien, amen, vous n'irez pas trop loin. Il faut avoir les deux pour être équilibré et pour accomplir le plan de Dieu dans sa propre vie. Amen. Êtes-vous déterminé? Et l'épreuve, le mot épreuve, c'est dans l'épître de Pierre, en grec, et c'est important de le savoir, c'est un des mots les plus importants qu'un chrétien doit connaître dans sa vie chrétienne. Le mot épreuve, en grec, c'est le mot perasmos. Et bien souvent, certaines traductions traduisent l'épreuve sous le mot de tentation, alors que ce n'est pas du tout, par exemple, si vous voulez, dans l'épître de Jacques, juste au début. Mes frères, regardez comme une joie, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Certaines versions ont même tentation, mais ce n'est pas du tout ça. Le mot ici, perasmos, veut dire non pas tenter, mais tester. Tester, c'est un examen. Dieu nous fait passer des examens. Et quel en est le but ? Avec un but. Et ce but, c'est de nous fortifier et de nous purifier. Il y a ces deux buts-là que nous devons constamment avoir dans notre tête. Quand Abraham, Dieu le mit à l'épreuve pour offrir son fils en sacrifice, Genèse 22, et l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. C'est le mot ici, tester, pour voir comment il allait réagir. Et Dieu nous teste, mes amis. Le diable nous tente pour faire sortir de nous le pire. Mais Dieu nous teste pour faire sortir de nous le meilleur. Amen. Voilà. Voilà pourquoi Dieu nous teste. Voilà pourquoi nous avons des épreuves. Ah, oh, c'est la catastrophe. Certains, la moindre petite épreuve, ça y est, c'est fini. Ils ne supportent plus rien. Ils ne savent plus où ils en sont. Et la première chose qu'ils disent, ça y est, Dieu ne m'aime plus. Ils n'ont pas lu l'Épître aux Hébreux, ou je ne sais pas, ils ont peut-être une version différente, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de versions différentes. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. C'est celui qu'il aime. Mais eux, vous savez comment ils ont compris? Le Seigneur corrige celui qu'il n'aime pas. La preuve, pourquoi le Seigneur me fait passer par ce chemin? Qu'est-ce que je lui ai fait? Moi qui suis fidèle depuis des années, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et la déduction qui en est tirée, ah, je comprends. Ah, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Et c'est une contradiction que même certains chrétiens n'ont pas la conviction profonde que Dieu les aime, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est vrai. Si vous ne pouvez pas le dire du fond de votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'irez pas loin. Vous allez boiter dans votre vie spirituelle. La dépression et toutes sortes de problèmes peuvent provenir de cela. Diverses épreuves, Dieu nous tente. Dieu nous tente pas pour nous, Dieu ne nous éprouve pas pour nous affaiblir, mais pour nous fortifier. Alléluia. C'est comme un athlète, le chrétien est un athlète. Pour qu'un athlète ait des muscles, par exemple, prenons un haltérophile. Hein? L'haltérophile. Pour avoir des muscles et porter quelque chose de lourd, bon, il peut commencer avec un manche à balai. Bon, on peut commencer, il y a un début à tout. Mais s'il en reste là, est-ce qu'il va avoir des muscles? Il n'aura rien du tout. Au contraire, il risque même de tomber malade, d'avoir mal au dos, et tout un tas de problèmes. Mais s'il veut des muscles, il faut qu'il y ait une pression plus grande. Donc il prend un poids supérieur. Il prend ses mains. On les voit souvent. Hein. Les muscles sont là, ça fait travailler les muscles. Et qu'est-ce qui fait travailler les muscles? C'est la pression. C'est la pression, c'est les difficultés. Tout cela sont nécessaires pour que Dieu forme en nous des muscles spirituels. C'est pour nous tonifier et non pour nous détruire. Et quand il a porté un certain poids, il est content. Et qu'est-ce qui se passe après? Il dit, maintenant je vais essayer un peu plus. Il a essayé 100 kilos, il va essayer 110 kilos. Il ne se décourage pas. Il a réussi 100. Il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas les 110. Et il y arrive. Tout cela parce que ses efforts, cette tension, produit en lui exactement ce qu'il faut produire, des muscles. Et Dieu fait la même chose avec chacun d'entre nous. C'est assez, depuis longtemps, tu es avec ton petit manche à balai, là. Tu ne veux pas de pression. Et tu rejettes absolument tout le poids que Dieu met parfois sur toi pour que tu deviennes plus fort spirituellement. Et tu n'en veux pas. Et te voilà gringaler, spirituellement parlant. Pas de force, pas de dynamisme, pas de vitamine, il n'y a rien. La moindre épreuve, c'est terminé. « Oh, priez pour moi, pasteur. Vous vous rendez compte? Si vous ne priez pas, ça y est, j'abandonne la foi. C'est terminé. C'est terminé. Je ne viens plus. C'est fini. » Ah bon? Est-ce que Dieu veut cela? Le diable veut retirer le pire de toi. Mais Dieu veut retirer le meilleur. Et tu dois lui dire, « Seigneur, me voici. Je veux que cette épreuve me... fortifie. Je veux être plus fort, plus forte après cette épreuve qu'avant d'être entré. Seigneur, je veux te glorifier. Amen. Amen. Alléluia. La tempête, quand elle souffle dans la forêt et souffle contre un chêne, par exemple, la tempête fait une chose merveilleuse. Elle enracine en profondeur les racines du chêne. Voilà l'effet. Que cela produit, la tempête, que cela devrait produire dans notre vie. Ça devrait approfondir encore nos racines. Alléluia! Si bien qu'après une tempête, nous sommes plus forts. Et Dieu peut en envoyer d'autres pour être plus forts et pour être utilisés entre ses mains. Je lisais ce matin un passage
qui m'a frappé. Vous avez remarqué, il fallait qu'Élisée aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et les apôtres que le Seigneur a choisis, je veux dire, quand dans les actes des apôtres, vous savez, il y en a un qui a renié le maître, et il fallait le remplacer. Qui est-ce qu'ils ont pris? Vous connaissez ce passage? Voilà, c'est Pierre, je crois, il faut donc que parmi vous, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de vous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de la résurrection. Voyez-vous qui ils ont choisi? Non, pas n'importe qui, là. Oh, tu es là, toi, ça tombe bien. Toi, tu es là, oui, c'est bien. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur ne choisit pas comme cela. Qui ils ont choisi? Quelqu'un qui a suivi le maître pendant toutes ces années. C'était un inconnu, mais il a été là. Il a été là. Il a été là depuis le début du baptême de Jean jusqu'à la résurrection. Quelqu'un qui a tout vu, qui a persévéré. Autrement dit, quelqu'un qui était fidèle. Et quelqu'un qui a tenu ferme au travers de toutes les épreuves par lesquelles le maître est passé. Je lisais aussi dans Luc 22, il est dit, versets 18 et 19, « Vous, vous êtes de ceux qui avez persévéré dans mes épreuves. » Ça m'a frappé. « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. » Comme le Père dispose du royaume en ma faveur. C'est une parole extraordinaire. Jésus n'a pas choisi n'importe quoi. Il a choisi des hommes qui étaient prêts, quelle que soit l'épreuve, les tribulations, des hommes et des femmes qui ont tenu ferme, que personne ne pouvait arrêter. Il fallait qu'ils aient vu la résurrection. Le maître ressuscité. C'est pourquoi après, tout le monde pouvait leur dire « Votre maître n'est pas ressuscité. » Comment il n'est pas ressuscité? Moi, je l'ai vu. Et ce sont des chrétiens qui ont donné leur vie pour cela. Amen. C'était fini. Plus personne ne pouvait les arrêter. Plus personne. Et là, Élisée a vu son maître partir. Il a vu quelque chose d'extraordinaire que beaucoup n'ont pas vu. C'est pourquoi plus personne ne pouvait l'arrêter. Mes amis, première signification de ce manteau, c'est le manteau de la détermination à persévérer coûte que coûte. Coûte que coûte, êtes-vous de cela? Si vous êtes de cela, Dieu vous utilisera tôt ou tard. Dieu vous utilisera tôt ou tard. Mais il ne va pas chercher n'importe qui comme ça, des gens qui, un jour en haut, un jour en bas, on ne sait jamais, on peut jamais compter. Jamais. Souvent, il y a des chrétiens qui viennent, vous allez voir, avec ma venue ici, ça va être le réveil. 15 jours après, ils sont endormis déjà. Il n'y a plus rien du tout. La moindre épreuve les arrête, la moindre calomnie, contradiction. Oh non, moi je suis pas d'accord. Oh, ils sont méchants. Oh, ils sont méchants, les gens, même les chrétiens. Oh, ils sont méchants. Et ils abandonnent le Seigneur à cause du mauvais témoignage de l'un et de l'autre. C'est ce que je dis toujours aux jeunes chrétiens. Quand un jeune chrétien se convertit, une des premières des choses que je lui dis, mon ami, c'est bien. Tu t'es donné au Seigneur, tu t'es converti. Mais sache une chose, tu seras déçu de beaucoup de chrétiens. Mais sache aussi une autre chose, que tu ne seras jamais déçu du Seigneur. Amen. Regarde donc au Seigneur, mets ta confiance en lui, et non pas autour de toi, en disant, celui-ci, celui-là, et puis ça disparaît, on ne les voit plus. Combien d'églises ont vu ainsi des chrétiens partir, disparaître, parce qu'ils n'ont pas supporté l'épreuve. Dieu les testait pour voir si leur foi était sérieuse. Notre foi, nous dit Pierre, est comme quoi? Je vais terminer. Enfin, je vais vous donner quand même les deux. Notre foi est comme quoi? De l'or précieux. L'or précieux. Hein, l'or précieux, oui. L'or purifié. Et pour, voilà. Donc, votre foi doit être éprouvée pour tester l'authenticité de votre foi. Tant que quelqu'un n'est pas testé, cette personne, on ne peut pas lui faire confiance. Est-ce que vous pouvez aller dans un avion qui n'a pas été testé? Est-ce que vous allez sur un pont qui n'a pas été testé? Vous êtes bien exigeant. Ah oui, vous êtes exigeant. Mais c'est bien, vous avez raison. mais il faut être aussi exigeant dans votre foi. L'épreuve, rappelez-vous bien, malgré toutes les raisons que vous vous donnez, on vient de recevoir une lettre du Canada, tragique, un frère qui a été béni, guéri, à cause des problèmes dans son couple. Il commence à rejeter les chrétiens parce qu'il a eu de tristes expériences avec les uns et les autres. Et il finit sa lettre en lui disant « Maintenant, adieu. Adieu. » Ça voulait dire qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec les chrétiens. Quelle tragédie ! Quelle tragédie ! Et il y en a des multitudes comme cela. C'est peut-être pas aussi radical, mais petit à petit, on se refroidit. On n'est plus les mêmes. On a perdu sa flamme. On n'est plus comme avant. Bon, il faut que je vous donne quand même les deux autres, sinon vous allez me gronder après. Deuxième manteau, dans l'expression « je ne te quitterai point ». À trois reprises là aussi. Donc là, c'est le manteau « je ne te quitterai point ». Voyez-vous, Élisée, c'est vraiment l'exemple du Seigneur avec son disciple. « Je ne quitterai point ». Partout où il allait, il le suivait. « Je ne quitterai point ». Il y a là une leçon que vous pouvez trouver comme moi. C'est le manteau d'une communion personnelle avec le Seigneur. D'une relation personnelle, soulignez bien, personnelle avec le Seigneur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de corps, il faut tout faire comme... C'est bien. Mais rien ne se fera effectivement dans le corps tant que chacun de ses membres n'est pas enraciné dans sa foi et n'a pas une communion personnelle avec le Seigneur. Ça n'ira pas loin. C'est pas parce qu'on est nombreux que d'un seul coup, ça va marcher, c'est extraordinaire. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. D'ailleurs, dans la Bible, c'est pas du tout comme ça. Dieu a souvent agi avec peu de personnes. Peu de personnes, mais peu de consacrés. Attention, peu qui avaient une relation intime et personnelle avec Dieu. Dieu a pu leur confier quelque chose à cela. Tandis que les autres, ils étaient comme les fils des prophètes, là, ils étaient là, tout chaque fois pour discuter, pour mettre en colère Élisée. Taisez-vous, on est obligé de dire avec certains chrétiens, tais-toi, ils racontent n'importe quoi. Ton maître va être enlevé, ceci et cela. Ah, ils savent beaucoup de choses. Mais ils ne vivent pas beaucoup de choses. Ah, ils sont bien là pour parler, pour dire ce qui ne va pas. Je ne te quitterai point, écoutez-moi bien. Voilà le deuxième manteau, le sens de ce manteau, une communion personnelle. Personnelle. Avez-vous cette communion-là? Certains chrétiens, dès qu'ils ne sont plus avec d'autres chrétiens, c'est fini, c'est terminé. Ils font comme le monde, c'est terminé. Vous m'avez compris? Terminé, c'est fini. Ils agissent comme les païens, c'est tout. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas de relation personnelle. On n'est pas à l'église, vous êtes d'accord avec moi, pour pratiquer des rites religieux et retourner à la maison en étant les mêmes. C'est pas possible. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quelque chose de différent, de révolutionnaire. Alléluia! Non seulement on est révolutionné nous-mêmes, mais on veut communiquer cette révolution aux autres. Amen. Le manteau de la communion personnelle. Jésus comme sauveur. D'abord comme sauveur, ensuite Jésus comme Dieu, et ensuite Jésus comme Seigneur. Comme sauveur, ça veut dire que Jésus m'a libéré, m'a transformé. J'étais pécheur, j'étais lié, j'avais des passions, j'étais idolâtre, j'étais adultère, j'étais tant de choses, voleur. Maintenant, c'est terminé. Je suis frappé de voir combien de chrétiens mentent aujourd'hui. Mentent! Et j'ai même vu des prédicateurs mentir devant moi comme cela. Quelle tragédie! Jamais j'aurais pensé de voir une telle chose. Une communion personnelle, ça veut dire que Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as libéré, je suis une nouvelle créature, je veux vivre avec toi. Alléluia! Il y a un témoignage percutant. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Jésus t'a sauvé. Bien sûr, il est mon sauveur. Il t'a sauvé de quoi? Ben, je ne sais pas exactement, je ne m'en rappelle plus. Je ne sais pas exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? L'apôtre Paul disait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. Ah non, non, certains ont une autre version. Et voici, certaines choses sont nouvelles. Certaines, ah oui, mais pour certains, c'est ça. C'est seulement certaines choses. Quand on est vrai chrétien, c'est toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'on se convertit, non pas à moitié, mais pour vivre une vie entièrement nouvelle. C'est celle-là qui vaut la peine d'être vécue. Amen. Amen. Le reste vous décevra continuellement, mes amis. Tant que vous ne vous donnez pas entièrement au Seigneur et que vous n'avez pas cette communion personnelle, alors vous serez frustrés, vous ne serez pas heureux. Jésus Sauveur, Jésus Dieu. Thomas a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Cette révélation que Jésus est Dieu nous fait quoi? Nous pousse à être des adorateurs. Il est Dieu. S'il est Dieu, nous devons l'adorer. Est-ce que tu l'adores vraiment? Est-ce que tu sais l'adorer? Quand on adore comme cela le matin, tous ensemble, participe. Participe, s'il te plaît. Ne regarde pas autour de toi. Il n'y a que tellement de bouches fermées, même pendant l'adoration. Cela me fait toujours de la peine. Je me dis, mais pourquoi vous venez à l'église? Jésus est Dieu. C'est ton Dieu. Tu dois l'adorer. Si tu ne l'adores pas, tu adoreras quelqu'un d'autre ou tu t'adoreras toi-même. Il est le Seigneur aussi. Communion personnelle. Le Seigneur, ça veut dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Quand quelqu'un a cette prière-là, je vous assure qu'il a une communion personnelle. Le Seigneur ne tardera pas, si vous avez cette communion personnelle, à vous utiliser d'une manière ou d'une autre. Il ne tardera pas, parce qu'il veut vous bénir. Vous avez été béni, il veut vous rendre aussi en bénédiction aux autres. Et je termine. Troisième sens du manteau, eh bien c'est dans la double portion qui dit « Sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Alors comme je l'ai dit, certains ont pensé que uniquement la puissance. Mais vous savez que l'expression double portion vient du fait que dans l'Ancien Testament, vous le savez, comment le premier-né avait toujours la double portion. Quand le papa mourait, c'était lui qui prenait tout en charge et il avait le double des autres. Mais cette double portion n'était pas seulement une double bénédiction, mais une double responsabilité. Et quand Élisée s'est écrié qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit, il pensait à cela. Il se dit, mais tu t'en vas, mais quelle responsabilité! Il était loin de penser à la puissance, comme certains sont obsédés par ça. Et ils font des choses affreuses, soi-disant parce qu'ils ont la puissance de Dieu, mais une puissance qui ne se confirme pas dans la parole de Dieu. Élisée, qu'il y ait une double portion, il voulait dire par là. Je veux vraiment, c'est sérieux maintenant, j'ai une grande responsabilité. Et à cause de cette grande responsabilité, Dieu donnera une grande bénédiction. Amen. La bénédiction vient après la responsabilité. C'est quand on prend ses responsabilités que Dieu vient nous en aide. À celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Tu veux beaucoup, hein, tu veux une double portion. Mais Dieu pense qu'à la bénédiction, à une double bénédiction. Pour regarder les autres de travers après, c'est ça? C'est pas comme ça que ça marche. Si tu penses à une double portion, pense comme Dieu pense. Une double responsabilité. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, dans l'épître de Pierre, l'apôtre Pierre dit aux anciens, il dit, si vous voulez, vous ne devez pas dominer les chrétiens, mais être des modèles. Et dans l'épître de Jacques, il est dit que les serviteurs qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Ah, tu veux une double bénédiction? Attention, cela veut dire que tu seras jugé devant Dieu plus sévèrement, parce que tu auras plus reçu. Ouh, 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 ah bon, oh, c'est tout ça. Ouh, bon, alors, je vais me calmer un petit peu. Oui, tu as intérêt à te calmer. Tu as intérêt à te calmer et comprendre ce que ça veut dire une double portion. C'est une double responsabilité. Effectivement, d'après les commentaires, j'ai lu, Élie avait fait 7 miracles en général et Élisée en a fait 14. C'est merveilleux. Il a fait même les choses que Dieu... Il a fait les choses que Dieu ne lui a pas promises. Il les a faites comme ça, sans le vouloir. Simplement parce qu'il a obéi, mais il ne les a pas recherchées. Tandis que nous recherchons beaucoup de choses que nous n'obtenons jamais. Parce que nous mettons de côté ce sens de la responsabilité. Troisième manteau, c'est le manteau de la responsabilité et de la fidélité au Seigneur et à sa parole. Si vous avez ça, laissez-moi vous dire une chose. Alors, Dieu vous utilisera, tôt ou tard. Mais aujourd'hui, très peu veulent prendre leurs responsabilités. Quand quelque chose ne va pas, c'est toujours la faute de l'autre. Vous avez remarqué? Faire admettre à quelqu'un qu'il a fauté, alors que c'est visible, c'est encore pas de sa faute. C'est de ma faute, mais c'est aussi la sienne. Regardez comment on fait. Oui, d'accord, j'ai eu quelques petits problèmes avec quelqu'un comme ça. Oui, c'était ouvert, c'était manifeste, c'était de sa faute. Oui, en vitesse, oui, c'est de ma faute. Mais, ah, Et finalement, j'en sors comme si c'était de ma faute. Alors comment j'ai rien fait? Le sens de des responsabilités, on n'en veut plus. Voilà les hommes et les femmes que Dieu cherche. Je me trompe, pardon Seigneur. J'ai fait une bêtise, pardon Seigneur. Je veux recommencer. Personne ne fait pas d'erreur. Moi j'en fais des erreurs. Je suis attristé même par mes erreurs. Mais je veux glorifier le Seigneur. Voici trois leçons importantes du manteau d'Élie, puissions-nous tous apprendre ces leçons, les mettre en pratique. Et vous verrez que Dieu vous utilisera tôt ou tard et vous réjouirez son cœur. Que son nom soit béni. Alléluia. Mais ne soyons pas comme ces fils de prophètes qui sont là toujours en train d'être spectateurs. Dans les vies chrétiennes, il y en a comme ça. Il y a beaucoup de spectateurs, mais plus d'acteurs. Quand des spectateurs, il y en a beaucoup. Et le jour où vous avez besoin d'eux, il n'y a personne, personne, personne. Ils ne sont pas là. Pour applaudir, ils sont là. Mais pour agir, ils ne sont pas là. Que Dieu nous vienne en aide. Élisée, c'était ça. Et il était sincère, je termine. Je vous ai dit plusieurs fois, je termine. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a pris le manteau, il s'est baissé, l'humilité. Et ensuite, il était tellement sincère, c'était pas pour dire, vous voyez, ouais, maintenant moi je vais faire, vous allez voir, je vais faire comme Élie, moi, vous allez voir qui je suis. Il n'y avait rien de tout ça dans sa tête. Comme nous, on peut le penser. Vous allez voir maintenant, il n'y a pas de ça. Pour lui, c'était une responsabilité. Et c'était aussi une preuve de sincérité. Seigneur, je suis là. Je t'ai suivi, c'est de tout mon cœur. Mais maintenant, fais quelque chose. Parce que si tu ne fais rien, ça ne va plus. Je ne pourrais pas te glorifier comme tu le voudrais. Seigneur, il y a une sincérité profonde de glorifier Dieu en Israël. Et Israël en avait besoin à ce moment-là. Laissez-moi vous dire, l'idolâtrie était là, l'immoralité était là, comme elle est aujourd'hui encore. Que Dieu nous ait, vienne en aide et que nous prenions ce manteau. Le manteau ne va pas venir sur toi, hein, attention. Je te mets ce manteau, c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois te courber. Le manteau est par terre. Qui veut le ramasser? Pour le ramasser, il faut s'humilier. Et c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet exemple d'Élisée qui nous montre comment tu veux nous utiliser, comment tu agis dans la vie d'un homme, d'une femme. Tu n'agis pas comme le monde agit. Tu as tes principes à toi. Seigneur, ce n'est pas toi qui dois te soumettre à nous. C'est nous qui devons nous soumettre à tes lois, à tes principes, ta parole. Nous voici, comme Élisée, nous voulons nous baisser et ramasser ce manteau. Mais réaliser combien la responsabilité sera grande. Parce que le peuple en a besoin. Le peuple était vraiment dans l'idolâtrie et dans l'immoralité. Il fallait que quelqu'un soit là pour dire que Dieu est Dieu. Et que c'est lui qu'il faut servir et personne d'autre.
Amen.
Et non les idoles.
Amen.
Merci Seigneur. Merci. Touche nos cœurs au plus profond de nous-mêmes et que nous ne soyons plus les mêmes.
Oui, Jésus.
À ton nom soit toute la gloire. Amen.
Une parole prophétique qui vient merveilleusement compléter ce que Samuel vient de dire. Et je ne savais pas sur quoi il allait prêcher, je ne savais pas du tout. Le Seigneur m'a montré avant de venir ici, ces derniers jours, qu'il y a un cancer qui ronge spirituel, qui ronge le peuple de Dieu. Et il m'a dit, il y a deux sortes de chrétiens. Une image, deux sortes de chrétiens. Les premiers sont comme la mer morte, l'eau stagnante. Certains chrétiens, m'a-t-il dit, cherchent toujours à recevoir, mais seulement pour eux-mêmes. Ils cherchent à être renouvelés, mais seulement afin qu'eux soient bénis, qu'eux soient guéris, qu'eux vivent dans l'abondance et dans la prospérité et le bien-être. Leur eau est stagnante et ressemble à la mer morte qui ne s'écoule jamais. Ils ne sont en bénédiction à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Leur eau ne produit pas de vie. Elle finit par sentir mauvais, car elle ne fait que nourrir leur égoïsme. Ces personnes-là souffrent d'infirmité spirituelle, si ce n'est pas triste. Juste parce qu'on va toujours, donne, Seigneur, je veux recevoir. Qu'est-ce que je peux encore recevoir du Seigneur? Une guérison, quelque chose. on vient pour recevoir, mais on n'est jamais disponible pour donner. Jamais. Et il y a la deuxième sorte de chrétien, qui est celle qui est la sorte que le Seigneur veut que nous soyons. Ce sont des chrétiens qui laissent couler de leur sein des fleuves d'eau vive.
Amen.
Ces chrétiens-là ne boivent à la source que dans le seul but de pouvoir servir de rafraîchissement pour les autres, de bénédiction aux autres. Ils sont de véritables sources d'inspiration pour ceux qui les entourent. Ils sont conscients que tout ce que Dieu leur donne sert à nourrir, abreuver, désaltérer les autres. Ils apportent force, paix, consolation, guérison à ceux qui les approchent. Il en a été question. Ne cherchons pas à être bénis juste pour nous-mêmes. Il faut que cette bénédiction que nous recevons de Dieu puisse couler au travers de nous et nous serons des vases utiles pour le Maître. Et nous serons des vases qui glorifient le Seigneur. Ne voulons-nous pas tous être de ces sources jaillissantes d'eau vive, où l'eau de la vie peut s'écouler sur les autres.
Amen.
Être une source d'inspiration, de guérison, de bien-être, de consolation, selon les besoins que Dieu place sur votre route. Ne voulons-nous pas tous être ces chrétiens-là? Que chacun s'examine soi-même devant le Seigneur. Maintenant, j'ai une parole d'encouragement pour un serviteur de Dieu au milieu de nous, que le Seigneur veut particulièrement encourager. Ce qu'il me donne parfois et assez souvent. Le Seigneur te dit, mon serviteur, tu as derrière toi de nombreuses années de service. L'œuvre que j'ai commencée en toi et au travers de toi, je l'achèverai pour ma gloire. C'est moi qui t'ai établi dans le travail que tu fais pour moi. C'est moi qui t'ai envoyé dans ma moisson afin que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Cette œuvre sera complète quand je viendrai te chercher. Ne baisse pas les bras. Ton travail n'est pas du tout vain. Tu n'as pas travaillé pour le vide et le néant. Tu n'as pas consumé ta force pour rien. Et même dans ton âge avancé, tu me seras encore utile. Ma grâce, te dit le Seigneur, subsiste pour tous les âges. Ta récompense se trouve auprès de moi. Continue, persévère. Rappelle-toi que celui qui a été ta force jusqu'à ce jour sera encore le même demain. Je t'ai fidèlement soutenu et je te soutiendrai encore. Travaille dans mon repos et rappelle-toi que ma main n'est jamais trop courte pour te sauver et te délivrer, dit le Seigneur.